Canal Sud 92.2 MHz, toujours en chair et en ondes. Et là, on va passer au volet juridique, hein, c'est-à-dire plus les associations qui ont attaqué, qui sont allées en procès contre l'État, contre Total. Mais peut-être qu'on va commencer avec vous, M. Grelier, par rapport à l'association des sinistrés qui s'est constituée dans la foulée de l'explosion.
Oui. Donc, je veux bien commencer.
Alors, il en faut toujours un.
Je pense qu'il faut dire quand même qu'après l'explosion, moi, j'ai constitué le collectif des sans-fenêtres. Il y avait une situation qui me désespérait, à savoir qu'un fossé s'était créé entre les salariés et les riverains, alors qu'ils étaient tous les deux victimes de la même catastrophe, que plus jamais ça s'est créé, en reprenant un sentiment général, hein, à savoir que un site chimique de cette envergure en plein milieu de la ville, c'était une aberration. Dans l'autre camp, hein, les syndicats ZF, hein, démagogiquement, ont mené une campagne pour la réouverture du site. Pour moi, le site, il était fermé matériellement et symboliquement. Donc, ce combat n'avait pas lieu d'être. Par contre, moi, ce que j'ai essayé de faire et que je n'ai pas réussi, et il me semble que c'est notre défaite à tous, hein, c'est que je n'ai pas réussi à regrouper les forces, hein, expliquer aux salariés, hein, qu'on ne les rendait pas responsables de la catastrophe, hein, qu'ils étaient des victimes, même les premières victimes, et qu'il fallait que les riverains les soutiennent pour avoir de quoi vivre. Et à l'époque, moi, je réclamais, hein, une pension à vie. La plupart des salariés avaient dans la cinquantaine. Et donc, moi, je réclamais à ce que les riverains soutiennent les salariés, hein, pour qu'ils puissent continuer à faire vivre leur famille.
Bon, c'est ce qui est marqué, on en a parlé tout à l'heure, sur plus jamais ça, c'est ce qui est marqué sur la plateforme, hein, aussi. Il y avait de toute façon cette chose. Je pense qu'il faudrait peut-être avancer pour en arriver vraiment aux sinistrés, aux procès.
J'avais juste fini, là.
Ah, pardon.
Je sais à peu près gérer mes idées. Le combat des sans-fenêtres, c'était un combat pour que l'État joue son rôle d'État. Hein, là, la situation, c'était que chaque sinistré devait se battre seul contre la machine totale, hein, ce qui entraînait évidemment des disparités, suivant qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit immigré ou français, qu'on soit traumatisé énormément ou pas, hein, on n'a pas pu se défendre de la même façon. Donc notre combat, ça a été celui-là. On a obtenu des petits trucs, pas grand-chose, hein, ce qu'on appelait le provisoire durable, c'est-à-dire qu'on a placé du contreplaqué gratuitement, hein, dans les fenêtres, à l'emplacement des fenêtres. Bon, voilà. Et au bout d'un an, on n'avait pas gagné alors qu'il y avait une mobilisation, ça me paraissait complètement impossible de le gagner avec le reflux. Et donc, à cette époque-là, on a dissous le collectif des sans-fenêtres et moi, je rejoins l'association des sinistrés du 21 septembre parce qu'ils avaient ils nous avaient aidés. Ils ne nous avaient pas pris pour des concurrents, hein, dans la création du collectif des sans-fenêtres. Et donc, je suis devenu un militant de l'association des sinistrés du 21 septembre. Ça a duré un certain temps. Hein, jusqu'en 2005-2006, le problème, c'était les dédommagements. Hein, donc, on a mené cette bagarre avec quelques succès, quand même. Et puis, ça s'est fini en 2006. Et là, a commencé le temps des procès. Voilà. Alors, il se trouve que l'association des sinistrés du 21 septembre était devenue squelettique au moment des procès. Hein, c'était 5 ou 6 personnes que je tirais par la manche et qui venaient pour parce que ils n'osaient pas me refuser. Et en 2013, il y a eu une nouvelle bagarre à propos des prothèses auditives. Et là, l'association s'est développée énormément. Hein, on a réussi à obtenir la capitalisation pour environ 80 personnes. C'est de 20 à 30 000 euros. Et donc, l'association des sinistrés du 21 septembre, aujourd'hui, c'est une autre association. Il y a évidemment une dizaine d'anciens qui sont toujours là. Mais les gens actifs, hein, et il y en a pas mal, ce sont des nouveaux. Actuellement, on a 90 adhérents en cours qui ont payé leur cotisation. Et on fait des réunions mensuelles. La dernière, on était 40. Mmh. Voilà ce que je peux dire pour l'association des sinistrés. Et maintenant, peut-être qu'on peut parler des procès.
Les procès, on a tous en tête là ce procès qui va se tenir le 23 février 2009. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu avant? Est-ce qu'on vous deux se le...
Si on reprend la suite donc, du débat qui a eu lieu tout à l'heure, à un moment donné, quelqu'un, je ne sais plus, a dit qu'il y avait eu un déplacement du combat, donc du combat pour la fermeture des sites, du combat vis-à-vis du risque industriel sur le site sud, vers le combat juridique. Oui. Donc ça a été effectivement le cas, c'est-à-dire qu'au niveau de PJC Croix-de-Pierre, on est parti à peu près en 2005 sur le fait qu'il fallait aller au juridique, puisqu'on avait perdu le combat politique, entre guillemets. Donc on s'est dit qu'il y avait trois possibilités là. Donc notre objectif, c'était d'une part de faire venir Total au tribunal, ce qui n'était pas le cas, puisque normalement, les personnes qui étaient impliquées, c'était Grande Paroisse et son directeur. Donc faire venir Total au tribunal dans le cadre d'une citation directe. Le deuxième point, c'était ensuite attendre un petit peu la fin de l'instruction pour nous, derrière, se porter partie civile, avec des avocats, si possible. Et puis le troisième point, donc, qui a été quelque chose de mis en avant dès 2005 par PJC, c'était d'aller attaquer l'État en partant du principe, donc essayer de faire condamner l'État au niveau administratif en partant du principe que l'État avait commis des fautes.
D'accord, donc sur le plan administratif, cette attaque contre l'État, comment ça s'est soldé ?
On l'a mené à partir, donc on est allé en 2005 au tribunal administratif en attaquant l'État pour une faute de contrôle. En fait, l'usine AZF, c'est un établissement classé, donc il y a un contrôle obligatoire de l'État pour vérifier que l'industriel respecte bien les recommandations qui lui sont faites. Il apparaissait, et ça c'est le problème partout, hein, il apparaissait que l'État faisait mal son travail. C'est-à-dire que son rôle de gendarme, il ne l'effectuait pas, il ne le faisait pas bien, et on a attaqué là-dessus. On a un avocat qui, après s'être bien battu avec la commission d'accès aux documents administratifs, parce que c'est très difficile à avoir, a fini par avoir 10 ou 12 années de rapports de contrôle d'AZF qui tenaient sur un nombre de pages ridicules, dont la moitié commençait par « je vous rappelle qu'il faut que vous fassiez ça », et l'autre moitié qui finissait par « on verra la prochaine fois si vous avez fait quelque chose ». On a attaqué aussi sur d'autres questions plus larges, c'est-à-dire on s'est intéressé par exemple à la mise en œuvre des lois Seveso qui évoluent à l'Europe et dans laquelle la France avait un retard terrible. On s'est attaqué aux conditions à l'intérieur de fonctionnement du hangar de 121, etc., des choses comme ça. Il y a eu un premier procès, on peut dire que grosso modo, le tribunal administratif a suivi ce qui s'est passé au pénal. C'est-à-dire que... Alors avec une chose importante qui a été dite d'entrée, dans le premier procès, c'est que effectivement l'État n'avait pas fait son travail, mais que le fait que l'État n'avait pas fait son travail ne le rendait pas responsable de la catastrophe.
Donc ça, c'est le tribunal administratif de Toulouse.
De Toulouse. Le tribunal administratif de Toulouse. On a fait appel, on est allé à la cour administrative de Bordeaux, qui a considéré que effectivement l'État n'avait pas fait son travail et que de ce point de vue-là, on pouvait considérer que ça avait favorisé, disons, la catastrophe à un pourcentage qu'ils ont évalué, je ne sais plus, à 20% ou 15%. D'où sort le chiffre, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu une indemnisation et condamnation de l'État.
2 500 euros par partie, je crois. Non,
c'était 1 300 par personne. C'était très faible parce qu'on avait demandé. Bon, voilà, ils évaluaient à un certain pourcentage du dommage global. Et donc, l'État s'en est pas tenu là. Et on s'y attendait un petit peu parce que malgré tout, ça voulait dire qu'il y avait un problème de fonctionnement. À l'intérieur
des. Que la DRIR n'avait pas fait son travail.
Que la DRIR,
que le service de l'État qui était sur le terrain avait fermé les yeux sur. Sur tout ce qui s'était passé avant AZF, puisque
qu'ils n'y avaient pas mis les bons moyens, que le travail était mal fait, etc. Donc ils sont allés dans la cassation du tribunal administratif qui s'appelle le Conseil d'État. Mm-hmm. Ce sont donc des gens nommés par l'État. Hein. Et qui, lui, a carrément dit une chose, alors là, qu'on n'avait pas entendu depuis le début, c'est l'État a bien fait son travail.
Donc a cassé.
A cassé effectivement la décision en disant non, non, il n'y a pas de faute de l'État. Alors on voit assez bien pourquoi ils disent ça à un moment par rapport à. Voilà, ils sont. S'il faut réformer le fonctionnement de l'ancienne DRIR pour que l'État fasse bien son travail, enfin, probablement qu'ils se méfiaient de ça, et effectivement, ils ont pris des mesures pour que ça puisse pas se produire. Donc, ça s'est. Et puis, voilà, on était au bout de la course, on n'avait plus de moyens d'agir, donc ça s'est arrêté là. Et toutes les décisions ont été calées quasiment sur les décisions du pénal, c'est-à-dire le Conseil d'État, c'est 15 jours avant la Cour de cassation.
D'accord. Donc, contre l'État, c'était nettoyé, c'était terminé, l'État s'en sortait indemne, il n'avait strictement rien à voir avec l'explosion de l'usine AZF, même si les contrôleurs de la DRIR, les inspecteurs de la DRIR n'avaient rien vu, peu importe, ce n'était pas sa faute, ils auraient très bien pu ne rien voir ou avoir un problème de vision d'emblée, enfin, je ne sais pas, en tout cas, c'est... Donc, du coup, après, ça a été plus l'action juridique contre Total, quoi.
C'était en parallèle, en fait.
C'est en parallèle.
Mais ce qu'il faut bien voir au niveau du pénal, c'est que le Conseil d'État... fait en sorte de mettre en avant l'irresponsabilité complète, organise finalement l'irresponsabilité complète de l'État dans ce type de catastrophe. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que derrière, on ne peut rien faire.
Alors, le problème, c'est que c'est extrêmement difficile de séparer les activités de l'État et les activités de Total. Dans le bouquin que j'ai écrit, j'ai fait des recherches. 83% du capital de Total, c'est des investisseurs institutionnels. 83%. Et donc, il y a une complicité, une connivence absolue. Donc, après, il y a une question de stratégie. Est-ce que... on choisit d'attaquer Total ou est-ce qu'on choisit d'attaquer l'État ? Moi, de mon point de vue, ça me paraissait plus juste d'attaquer Total.
L'un n'empêche pas l'autre.
Après...
L'un n'empêche pas l'autre, dit.
Bien sûr, ouais. bien sûr. Mais les procès, quand même, ce qui est apparu à l'opinion, c'est quand même les procès pénaux. Donc le premier procès s'est conclu par une relaxe générale. Et là, derrière, il y a un scandale institutionnel. C'est que la loi prévoit que la commission d'enquête interne de Total fasse les investigations. C'est-à-dire que le samedi, le lendemain, le 22, ils étaient sur place. Et c'est un grand nombre de scientifiques de très haut niveau. Ils ont commencé à faire des investigations. Ils ont interrogé les protagonistes.
C'est surtout qu'ils ont fait les investigations avant que les flics en étaient encore regardés les plans de l'usine.
Absolument.
Alors que Total savait exactement où est-ce que tout s'était passé.
Absolument.
Est-ce que ce wagon...
Les flics, ils n'ont pas l'habitude de ça. Et en général, ils arrivent, c'est les rois. Ils cernent la scène du crime, ils font leurs études. Et là, ils ont eu un mal fou à obtenir l'organigramme. Et ils ont appris le dépôt de la benne litigieuse 3 semaines après la catastrophe. Alors que le dimanche, le sous-traitant en question était entendu par la commission d'enquête interne de Total. Donc il y a eu une entrave, à la justice. Et alors, ce qui est peut-être ce qui le caractérise le mieux, c'est que la relaxe a été justifiée par l'absence de la benne.
C'est ça.
Et alors, cette benne, elle n'a pu être escamotée que par la maîtrise de Total.
Bien sûr. Si, disons que si on avait eu la benne, on aurait su exactement les produits qui avaient été mélangés dedans.
Absolument.
On aurait pu avoir.
Alors qu'elle a été envoyée. Je crois qu'il faut bien saisir là le fiasco judiciaire.
Mais justement, j'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu, de revenir un petit peu donc à ce procès. Hein. C'est le 23 février 2009. Il va se dérouler à Toulouse, dans une salle excentrée. Il va durer 4 mois. C'est le plus grand procès en correctionnel jamais vu en France. Le dossier fait 109 tomes, 1700 scellés, dénombre 54 000 pages, plus de 3 000 plaignants, 3 000 parties civiles, une soixantaine d'avocats, 200 journalistes. Il est filmé pour l'histoire. Donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Enfin, on tient à soigner un petit peu les maux des Toulousains, visiblement, qui ont subi cette catastrophe aussi.
C'est
on
veut leur faire voir. C'est la plus grosse catastrophe industrielle en France et peut-être même en Europe depuis la fin de la guerre aussi. Hein,
le procès du siècle, comme on me fait voir derrière. Et ce procès du siècle, le parquet, le 24 juin 2009, requiert une peine de 3 ans de prison avec sursis, 45 000 euros d'amende pour le directeur de l'usine, 225 000 euros pour Grande Paroisse. Et en fait, on sait qu'au final, ça va être une relaxe générale. Mais n'empêche que ce procès s'est tenu. Tu y as participé. Je ne sais pas si tu faisais partie des plaignantes, Patricia.
J'ai participé, oui.
Et qu'est-ce que ça représentait, ce procès, quoi ? Qu'est-ce que le fait d'y aller, c'était quoi ? C'était de clôturer, c'était quoi dans, pourquoi ?
Tu veux dire dans la démarche d'aller
dans la démarche.
Eh ben, c'était l'histoire de Total doit payer. Parce qu'il y avait eu les dégâts matériels, il y avait eu les dégâts physiques et psychologiques. Mais enfin, en 2009, on était 8 ans après. Donc on avait été plus ou moins indemnisés, selon les cas. Hein, on en a parlé. Mais il y avait l'idée de, au-delà de ça, il faut une réparation morale. On habite déjà dans des quartiers pourris. On est déjà traité comme de la merde au quotidien. Ça ne peut pas continuer. Et on ne peut pas dire que quelqu'un qui a foutu une usine dangereuse, qui ne l'a pas entretenue et qui a fait péter tout un quartier, va s'en sortir. C'était ça qui se jouait. Il m'a posé la question de pourquoi j'y allais. Hein. Donc c'était ça, moi, qui se jouait dans ma tête. Et je pense que les gens avec qui j'y allais étaient dans la même démarche. Et c'est pour ça que ça me faisait sourire quand tu disais « soigner les maux des Toulousains », parce que je pense que ça a été la pire expérience d'AZF, enfin le jour le jour de l'explosion, c'était déjà compliqué, mais enfin l'ouverture de ce procès, ça a été encore pire. C'est-à-dire que l'ouverture du procès, c'était à l'entrée, 3000 parties civiles quand même, tous avec leurs petites cartes et tout, un tout petit portail qui laissait les gens passer un par un avec un contrôle des sacs à l'entrée, les gens qui se sont bousculés parce que le bruit courait, qu'il n'y aurait pas assez de place dans la salle. Donc déjà ça, une salle immense avec des rangées de tables d'avocats en début, et puis tout au bout de la salle, tout au fond, les parties civiles, mais vraiment à des kilomètres d'une estrade où étaient posés les juges. Donc ça veut dire déjà tu avais l'impression d'être au bout du fond. Mais en plus, les juges appelaient les parties civiles les unes après les autres. Enfin, moi, j'y étais non représentée ni par un avocat ni par une association. Donc, j'étais appelée avec d'autres à titre individuel. Ils nous faisaient passer 5 par 5. Et alors là, c'était comme à l'école quand tu étais petit, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouvais par 5, debout, face à ces gens qui avaient globalement leurs genoux au niveau de ton nez. Et pourtant, je fais 1m80. Et à devoir décliner qui tu étais, pourquoi tu étais là, qu'est-ce que tu demandais à Total, devant une salle remplie de centaines de personnes. C'est hyper impressionnant. Tu ne sais pas comment ça fonctionne, la justice. Et vraiment, et hop, après, on te dit merci. Et il y a 5 autres qui passent. Voilà. Et après, des débats comme les débats judiciaires, quoi. Si tu ne connais pas quelque chose, Tu comprends rien.
Expert contre expert, etc.
Exactement.
Mais pourtant, il se dessine quand même une certaine responsabilité de Total, puisque le procureur va quand même essayer un petit peu de charger avec du sursis, avec des amendes contre grande paroisse. Donc, il se dessine le fait que, effectivement, Total n'a peut-être pas respecté toutes les histoires de sécurité, mais surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, a envoyé sa petite équipe là de démineurs pour faire un petit peu le nettoyage. Quoi. C'est des méthodes de barbouze. C'est-à-dire, on va faire le ménage pour éviter qu'il y ait trop d'indices qui restent au final sur le site. Hein. Parce que si ce wagon a été retrouvé, on aurait su qu'est-ce qui s'était passé dedans, quoi, par exemple.
Là, je voulais juste ajouter un détail. Il y avait une porte réservée à Total. C'est-à-dire que l'ensemble des parties civiles passaient sous les portails de la police, hein, mais il y avait une porte qui était gardée par les vigiles de Total. Et on voyait se promener les gardes du corps avec la main dans la poche qui était un peu saillante. C'est-à-dire qu'on pouvait se demander si c'était un flingue ou si c'était simplement de la frime avec le doigt. Et il me semble que ça montre bien quand même à quel point Total, c'est l'État. Hein, c'est juste ce que je voulais faire, cette remarque.
Il y a plusieurs choses. Je crois que le procès pénal a aussi un procès d'exutoire pour les victimes. Et c'est une espèce de jeu de rôle dans lequel on pense que les victimes vont pouvoir peut-être un petit peu avoir une peine un petit peu amoindrie. C'est un exutoire. Donc il y a tout un tas de jeux de rôle là derrière. L'autre chose, c'est que 15 ans après, enfin aujourd'hui encore, dans le prochain procès qui aura lieu, il faut bien voir que Total, pour sa défense, va simplement dire qu'on ne sait toujours pas la raison pour laquelle cette usine a explosé. Or, il faut bien voir quand même que Total, il a un nombre infini d'experts de haut niveau, de chimistes, de physiciens, etc. Donc un groupe de ce niveau-là, qui, 15 ans après une catastrophe, vient vous dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, c'est incroyable et c'est hyper dangereux pour l'ensemble de ces sites. Parce que s'il ne sait pas ce qui se passe sur son site ou sur les autres sites, bon, il y a un énorme problème de sécurité publique. Donc là, c'est un jeu de rôle aussi pour Total de dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, alors qu'il le sait très bien, comme on l'a dit dès le départ.
C'est surtout que ce wagon...
Ils disent qu'ils en sont malheureux. Ouais. Ils le regrettent.
Ça a été dit clairement par un avocat. Bien sûr, vous savez ce qui s'est passé. Mais si votre seule stratégie consiste à dire la thèse officielle n'est pas la bonne, mais que vous n'avez rien à mettre en face, vous êtes juste là pour semer le trouble et la confusion, c'est que vous savez ce qui s'est passé, mais que vous ne pouvez pas le dire. Ça a été défendu à un moment par un avocat au moment des plaidoiries finales. Mais ils restent sur cette position-là. Ils font ce qu'il faut, en tous les cas, pour qu'il y ait circule des thèses fantaisistes, pour semer la confusion et le doute, quoi, les théories du complot, tout ce qu'on voit autour de cette catastrophe aujourd'hui.
L'arc électrique, l'attentat
terroriste. Non, on a entendu de tout, hein, les extraterrestres.
Il y a eu quand même, alors c'est un peu avant, mais l'histoire des notes blanches. C'est-à-dire tout un tas de ragots, de rumeurs, toutes plus invraisemblables les unes que les autres, avec notamment le cas d'Hassan Jandoubi, qui est mort.
Intérimaire de 35 ans qui travaillait sur le site.
Moi, je le connaissais parce qu'il avait habité un moment à la Cité du Parc. Il n'était pas shooté à l'islam. Il était shooté à la bière, oui, mais pas à l'islam. Et ce gars a été accusé d'être un terroriste.
Post-mortem, bien sûr, hein, comme ça, il ne pouvait pas se défendre.
Ça, au prétexte qu'il avait trois slips, en fait, travailler dans cet atelier 221, c'était dangereux. Et il y avait des problèmes d'irritation. Et donc, ils avaient l'habitude d'avoir un caleçon long, un caoué par-dessus, un jean, plusieurs couches, pour se protéger des attaques chimiques, tout bêtement. Pour la petite histoire, sa femme a été convoquée par le SRPJ le jour de son enterrement. Et à la barre, le flic en question a dit, elle disait rien, On n'arrivait pas à la faire parler. On ne comprenait pas. Peut-être que le jour de l'enterrement, ça peut se comprendre quand même. Hein.
Après, je crois qu'il faut voir les différences qu'il y a eu entre le premier procès et le deuxième procès. Dans le premier procès, dès le départ, on a toute la défense de Total qui est bien regroupée, qui travaille comme un seul homme, qui se donne la parole. Et en face, on a l'ensemble des avocats des parties civiles qui, en fait, compte tenu de l'ampleur de ce procès, travaillent chacun dans leur coin. Il n'y a pas véritablement de discussion entre eux au cours de la première instance. Alors que dans le deuxième procès, en appel donc, là, on a vu la différence, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce groupe des avocats de Total qui font corps, qui interviennent à tour de rôle. Et en face, là, on a eu une stratégie au niveau des avocats des parties civiles qui se sont répartis la parole entre les différents éléments qu'ils devaient mettre en avant pour enfoncer Total. C'est-à-dire, et ça s'est vu.
C'est-à-dire que c'était mieux organisé en seconde instance qu'en première. Juste, on a une personne qui veut intervenir. Je crois que c'était...
Moi je suis Crimqueta, je suis un journaliste indépendant et j'ai investigué pas mal et j'ai assisté au premier procès de 2009. C'était pour rebondir sur ce que venait de dire M. Grenier quand il a zoomé sur
Hassan Djanoubi,
les deux caleçons et toutes les thèses fumeuses qui ont été bien investiguées, malgré le fait que certains policiers de la PJ toulousaine aient invoqué le fait que dans la flagrance, les 5 jours post-explosion, des investigations n'avaient pas été faites, ce qui était faux. Tout a été fait. Je veux juste intervenir pour dire que, suite à votre intervention, on ne sait pas ce qui va être débattu au troisième procès. On ne sait pas ce qui s'est produit le 21 septembre 2001. Donc des thèses vont être défendues. Et je tiens juste à rappeler que le juge Bruguière, qui était le juge antiterroriste en 2001, a bien dit et déclaré que toutes les pistes antiterroristes avaient été fermées, closes. Et ce même monsieur, il y a 2 ans, enfin un peu avant le deuxième procès, sous le commandement de Total, a émis un rapport sur les défaillances dans la piste antiterroriste. 30 pages, c'est disponible sur Internet. Donc je redoute qu'à l'aube du troisième procès, ces pistes fumeuses ne ressurgissent compte tenu du contexte de 2015 et tout ça.
Voilà, sauf que ces pistes, elles ont été un petit peu battues en brèche parce que, en fait, d'emblée, ça a été donc le Figaro et Valeurs Actuelles qui ont repris cette fameuse histoire de Hassan Djanoubi. Moi, étant sur Toulouse à cette époque-là, je me rappelle que certains conseiller municipal à Toulouse qui s'appelait Serge Didier, qui aujourd'hui a rejoint le Front National, se répandait en disant la piste de l'attentat. Mmh. Il est apparu aussi qu'il y avait quand même dans l'ombre Total qui attisait pour que ces pistes d'attentat, d'arc, etc., voilà, faisaient, enfin, comme pour brouiller un petit peu le débat et pour enlever le caractère accident industriel, accident chimique qui s'est réellement passé. Si ces thèses-là ont été la piste Djanoubi, d'en reparler encore aujourd'hui, c'est terrible parce que je me mets à la place de la famille de ces gens-là, de sa femme, de ses proches qui ont quand même dû s'expliquer, quoi, expliquer qu'en fait mon mari, mon fils, etc. n'est pas un bon musulman, mais il buvait. Enfin, c'est terrible, quoi, d'en arriver à raconter des choses comme ça. Et du coup, c'est vraiment, je pense que c'était une belle opération d'enfumage qui a été orchestrée par Total, par l'État, par je ne sais qui, avec effectivement à la base ces fameuses notes blanches. Sauf que ces notes blanches, quand on les a dans les mêmes, on n'a rien du tout, on ne sait pas qui c'est qui les a écrites, on ne sait pas quand est-ce qu'elles ont été écrites. C'est un amas d'informations comme ça, sans forcément... on ne sait pas sur quoi ça s'appuie, quoi. Donc après, ça circule de service en service avec des gens qui vont les reprendre en disant « Oui, c'est un terroriste parce que c'est marqué sur une feuille comme ça où il n'y a rien marqué du tout dessus. » Enfin, où on ne connaît pas la provenance. Et donc c'est toujours un petit peu... Pour moi, c'est des méthodes barbouzardes, hein, ce que je disais tout à l'heure. Et le problème, c'est que ça crée des écrans de fumée qui font que effectivement, en première instance, ils ont ressorti cette histoire. Alors, je sais pas, j'en étais pas allé jusqu'aux extraterrestres, mais comme quoi ça peut venir de plusieurs causes. Pour
ce qu'il faut bien voir, ce qu'il faut bien voir, c'est que Total et ses avocats ont mis en avant tout un tas de pistes complètement contradictoires les unes aux autres. Ils ont parlé de Jean Doumbi, donc le terrorisme. Ils ont parlé de l'hélicoptère qui survolait le site. Ils ont parlé de l'arc électrique. Ils ont parlé des missiles. Ils ont parlé d'une bombe sur le 221. Chacune de ces possibilités-là a été combattue. Et ces différentes possibilités-là, d'ailleurs, sont contradictoires les unes entre les autres. Donc c'est bien un écran de fumée qui est mis en avant pour faire en sorte que sa responsabilité, c'est-à-dire la catastrophe industrielle et un accident industriel, soit mise de côté et n'apparaisse pas en premier lieu.
Oui, il me semble que pour Total, le plus important, c'est de ne pas reconnaître qu'il est coupable. Et donc, on a parlé un tout petit peu du second procès. Ce qui, moi, m'a paru le plus caractéristique, c'est les pressions continuelles de Total sur la cour, sur les avocats, en mettant toujours en avant la question de la partialité.
Il s'agissait d'accumuler des preuves pour pouvoir faire cassation.
Et demander voilà, d'actes à répétition.
Voilà. Et donc, le second procès a été extrêmement pénible. Extrêmement pénible.
Le procès en appel. Donc c'est le 24 septembre 2012. Enfin, ça, c'est le verdict qui tombe à ce moment-là.
Mais, et donc là, il se conclut, heureusement, par la culpabilité de Total, qui est prouvée sans aucune équivoque. La condamnation de Total au maximum de la peine, 225 000 euros. Voilà, pour quelqu'un qui fait entre 10 et 15 milliards d'euros de bénéfices par an. Voilà.
Et la condamnation de l'ancien directeur de l'usine à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, c'est-à-dire un an.
Voilà.
Même donc, pas le quintet plus et de donc la ça, semaine dernière dans l'ordre.
Et donc ça, évidemment, c'est ce qu'ils n'ont pas pu accepter. Alors, ils avaient dans la manche... peut-être qu'on pourrait parler de la cassation. Ils avaient dans la manche une erreur du premier président de la cour d'appel qui avait nommé la vice-présidente de l'INAVEM, qui est en fait une association de victimes créée par le ministère de la Justice. Traditionnellement, tous les ans, on nomme comme vice-président une potiche qui est une caution institutionnelle. Et donc, Total... c'est des professionnels, ils ont appris ça dès le départ, alors que nous, on l'ignorait complètement. Et dès que le délibéré a été connu, ils ont fait un pourvoi en cassation qui a été accepté. Et la situation actuelle, elle découle de ça.
Juste, je veux juste revenir sur cette histoire d'appel. Vous disiez qu'en fait, s'il y a eu un bon résultat, c'est que quelque part, les parties civiles étaient mieux coordonnées. Comment ça s'est passé, ce procès en appel ?
Je pense qu'il y a eu, en appel, donc la défense de Total est restée constante par rapport à la première instance, il n'y a pas de problème. Par contre, on a peut-être eu un président beaucoup plus tonique, beaucoup plus à la recherche de la vérité.
Il n'a pas craqué.
Voilà. Il a pas craqué devant les interventions des avocats. Il est resté... Et de l'autre côté, par contre, concernant les avocats des parties civiles, je pense qu'il y a eu des réunions entre eux. Et ils se sont répartis la tâche. Et donc, à partir de là, ils n'ont pas à traiter l'ensemble du dossier. Ils ont à se concentrer sur un aspect du dossier pour lequel ils ont obtenu que les autres avocats n'allaient pas traiter. Donc ça a été positif, je crois, pour l'ensemble, pour la qualité des débats, pour le fait que ces débats soient la clarté des débats.
Je crois que c'est important de bien comprendre la motivation du premier jugement, le premier jugement qui relaxe Total. Le juge, il dit, il passe 25 minutes à parler ce jour-là, je veux dire, c'était quelque chose, on a passé 25 minutes, dont 24 à se dire, il va condamner. C'était pratiquement ça. Et à la dernière, il a relaxé. Parce que pendant 24 minutes, il a expliqué à quel point le procès montrait que Total avait, que le fonctionnement de l'usine, tel qu'il était, aboutissait logiquement à l'explosion, à l'accident. Il a évacué toutes les pistes terroristes, les pistes, etc., toutes les pistes fallacieuses autour, et il a conclu en disant une chose hallucinante. Il a dit, Il est certain que l'intervention de la commission d'enquête interne de Total n'a pas permis de retrouver cette benne. Donc, je ne peux pas établir de façon certaine le lien de causalité. Je devrais condamner pour entrave à l'enquête, mais ça a déjà été jugé, puisqu'il y avait déjà une plainte qui avait été déposée là-dessus et que ça avait déjà été jugé. Et cette plainte n'avait pas été raccrochée au procès pénal principal. Et donc, relax général. On fait du droit, là, hein, beaucoup. Le deuxième procès, le président a dit, on a un faisceau d'indices largement concordants pour dire que cette usine dysfonctionnait, que c'est ça qui a provoqué la catastrophe, et on peut condamner pour ça. Mais c'est une différence d'appréciation des juges sur un procès où, grosso modo, il n'y a pas eu de révélation entre un procès et l'autre, de révélation particulière qui fasse basculer les choses dans un sens ou dans l'autre.
D'accord. Du coup, on s'achemine vers un troisième procès qui va arriver début 2017. Hein. Donc, procès qui ne se fera pas cette fois-ci à Toulouse. Peut-être que le fiasco, la dernière fois, ils se sont dit, bon, on va le faire plus loin, comme ça, ça mettra moins de malaise. Je ne sais pas si ça va finir en fiasco, mais du coup, on s'achemine vers... C'est quand la date du procès?
Le 24 janvier.
24 janvier, à Paris. Donc ça veut dire, est-ce que les 3000 parties civiles toulousaines vont se déplacer jusqu'à Paris? Dans quelles conditions? Comment? Enfin, c'est pas... Est-ce que ça s'est réglé? Est-ce que...
S'il y en a 10, ce sera bien le maximum.
Et puis, il n'y aura pas 3000 parties civiles, puisque ne peuvent être parties civiles dans ce procès que les gens qui ont été parties civiles et qui se sont constitués en appel. Donc, on a découvert tout à l'heure dans votre salle d'attente que probablement, on est beaucoup à ne pas l'avoir fait, en particulier tous ceux qui n'étaient pas représentés par des avocats à l'époque et qui n'ont pas été signifiés de l'appel. Donc, il n'y a que ceux qui étaient représentés qui ont possibilité de se constituer là.
Et l'autre
Je pense pas, hein.
Si. Et l'autre difficulté, c'est que l'ensemble des parties civiles qui, elles, étaient défendues par un avocat, ont peut-être aussi déménagé, se sont éloignées. Alors, et là, voilà. Ça va être un gros problème de récupérer toutes ces parties
Donc
civiles
là,
pour ce deuxième appel.
Il y a de très gros problèmes juridiques. Il y a d'abord que les avocats de Total ont menacé d'une nouvelle cassation pour le cas où il y aurait une retransmission télévisée du procès à Toulouse. Et c'est relativement fondé juridiquement. Donc, on a déjà subi une première cassation, et moi, je n'ai pas du tout envie que pour une autre faute, aussi grossière de l'institution judiciaire, on subisse une deuxième cassation. Alors là, il y a un gros problème à régler. On en discutera mardi prochain. Il y a une audience de fixation. On va monter à Paris, assez nombreux. Donc ça, c'est un premier gros problème juridique. Un deuxième gros problème, c'est que les parties civiles n'ont pas été informées de la cassation. Normalement, l'audience de fixation, elle détermine le nombre de témoins, le nombre d'experts et le nombre de parties civiles présentes. Mais pour ça, il aurait fallu qu'elle soit prévenue. Et donc, c'est à cette audience de fixation que, normalement, des huissiers vont être mandatés pour retrouver les 3200 parties civiles. Et ça, ça pose un problème matériel. Quasi insoluble. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que du coup, le procès soit repoussé pour cette raison. Enfin, c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Hein.
Ouais.
Mais enfin, en tout cas, du point de vue juridique, rien n'est réglé. Et la question de la retransmission télévisée à Toulouse pose un très gros problème. Et une des conséquences, c'est que les sinistrés les plus modérés, on va dire, moi je suis un militant d'extrême gauche, tout le monde n'a pas mes opinions, mais les sinistrés les plus modérés s'étaient fait une raison. Bien sûr, ils ne pourraient pas monter à Paris, mais ils pourraient suivre le procès dans une retransmission télévisée. Alors, si ça, c'est impossible, rendu impossible par la question de la cassation, il n'y a plus rien à proposer aux Toulousains. Et donc, moi, il me semble que ça nous met dans une situation plutôt favorable pour réclamer encore et toujours des audiences foraines. C'est-à-dire que la Cour de cassation a désigné une cour de 3 juges. Bon, le ministre de la Justice a la possibilité de leur demander de se déplacer à Toulouse. Alors c'est une procédure obsolète, hein, qui n'a pas été utilisée depuis très longtemps, mais c'est une possibilité légale. Mais pour ça, il faudrait que le ministre de la Justice ait un peu de courage politique, et j'ai pas l'impression que ce soit la mode en ce moment.
Je vous propose une petite pause musicale.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chérie de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardée dans mon cœur. J'ai mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages. Là-bas sous d'autres cieux, mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Mai 1917. Énorme incendie, 9 victimes, aucune info, secret militaire oblige. Et puis, on était tellement fiers à Toulouse d'être le plus grand fournisseur de poudre à canon pour alimenter nos glorieux 75. Où le fameux 155 qui faisait tant de ravages dans les rangs des Boches. Canal Sud 92.2 MHz, toujours sur AZF, sur l'explosion de l'usine en 2001. On en était donc au volet judiciaire, au procès, avec le 24 septembre 2012, ce verdict en appel du deuxième procès en correctionnel de l'explosion d'AZF qui infirme le jugement de relax donné en 2009. Et avec la cour d'appel de Toulouse qui condamne l'ancien directeur de l'usine, donc à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et pour homicide involontaire et une amende de 45 000 euros, et la société, non pas Total, mais la société Grande Paroisse, qui, elle, a été condamnée à payer une amende de 225 000 euros. C'est une subtilité
C'est plus qu'une subtilité. Hein. C'est que Total, c'est le propriétaire de Atochimie qui tient Grande Paroisse. C'est-à-dire qu'en fait, AZF est arrivé dans le giron de Total par des intermédiaires de regroupement, de sociétés, etc., etc. C'est pas franchement, d'ailleurs, son activité principale. Hein. C'est plutôt un pétrolier, Total. Donc la chimie, et d'ailleurs, ça peut expliquer pas mal de choses sur la fermeture, sur la volonté de Total de fermer l'usine à un moment ou deux. Bon, en tous les cas, c'est Grande Paroisse qui est au tribunal et c'est Grande Paroisse qui est condamnée. Et à un moment, il y a une initiative associative qui dit, c'est pas possible qu'il n'y ait que Grande Paroisse qui soit au tribunal. Les propriétaires de Grande Paroisse, c'est Total, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont des ordres, qui donnent des ordres, et il faut faire quelque chose. Et donc, à ce moment-là, se monte ce qu'on appelle la citation directe, qui est un dispositif juridique qui va être initié par les sinistrés du 21 avec Maître Legvac, qui va être le grand, qui va construire toute l'argumentation de ça, puis ils vont être rejoints par beaucoup de sinistrés, par l'association Plus Jamais Ça, par plein de gens, pour dire il faut que Total soit cité au tribunal et qu'ils viennent à la barre du tribunal pour répondre aussi de la gestion de ces usines. Et ça, ça va... alors, on ne va pas expliquer juridiquement les aléas de toutes ces choses-là, mais en tous les cas, ça va quand même amener Thierry Desmarais, qui était le PDG de Total à l'époque des faits, à l'époque de l'explosion, à venir au tribunal, à tenir un langage de PDG de Total. Ça, c'est assez... on avait écrit un article à l'époque, parlez-vous de Desmarais sans peine. C'est une technique, hein. Ils apprennent ça, ils sont d'une imperméabilité émotionnelle et d'un langage, d'une technocratie dans le langage qui est assez impressionnante. Mais en tous les cas, à venir là et à risquer effectivement de se faire condamner au-dessus de Grande Paroisse, en quelque sorte. Pas Desmarais lui-même, parce que ça a été assez vite, il était assez vite clair qu'il n'y aurait pas la condamnation du PDG Total, mais la société pouvait effectivement être condamnée.
D'accord.
Ceci a été rejeté, il faut bien dire. Hein. C'est-à-dire que dans le verdict final, c'est Grande Paroisse qui a été condamnée, la citation a été rejetée, c'est-à-dire que Total n'a pas été condamné en fait. Mais alors la question de qu'est-ce qui va se passer dans le troisième procès, qu'est-ce qu'il en est encore de cette citation directe, je dois dire que c'est assez compliqué juridiquement pour moi, en tous les cas. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce sujet revienne à l'ordre du jour du troisième procès.
On arrive à ce troisième procès, ça fera plus de 15 ans après. À quoi ça sert ? De continuer comme ça, à quoi, qu'est-ce que ça vous fait je remets ça en par rapport à tout ce qu'on a parlé avant, c'est-à-dire que oui. Les gens se sont battus pour la fermeture du pôle chimique, on s'aperçoit que bon, AZF a fermé, mais l'usine était programmée de fermer dès le 21 septembre, ouais. Elle s'était mis une balle dans la jambe et elle allait se traîner un petit peu et puis voilà, et c'était fini. La SNPE, on a entendu tout à l'heure que c'était donc ben voilà, que tout son volet militaire, son histoire de carburant pour la fusée Ariane en faisait un site stratégique, surtout militaire, quoi, et qu'il était donc hors de question de le fermer. Promis, on va le rouvrir, mais il n'y aura pas de risque. Je disais un petit quelque chose tout à l'heure, comme quoi en janvier 2015, effectivement, il y a toujours des risques. Il y a toujours du perchlorate d'ammonium qui est balancé sur les routes comme ça, à travers des 19 tonnes qui font des acheminements Toulouse-Bordeaux avec ces cochonneries dedans, et que un nouveau risque est possible. Et en parallèle à ça, donc on voit un petit peu, entre guillemets, cette mascarade judiciaire, parce qu'on parle du programme du plus grand procès du siècle, qui se termine, mais par le plus gros bide du siècle aussi, peut-être, quoi, quand même, avec relax général, avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire une plaidoirie, une plaidoirie avec un jugement de 24 minutes à la 25e, on apprend que, bon, paf, en fait, tout le monde est relaxé, donc il y a un appel dessus. En fait, l'appel, on se dit, tiens, quand même, c'est peut-être un petit peu, enfin, on tient quelque chose. Eh ben non, pas du tout, quoi. En fait, il s'avère qu'une magistrate était en même temps avec... comme si on ne pouvait pas le savoir avant. Et donc, du coup, là, on part sur un troisième procès. Donc, qu'est-ce que... À quoi ça...
Alors, moi je pense que ce troisième procès, il a un rôle symbolique. Pour Total et pour nous. Moi, j'ai vu l'évolution dans mon association. Les gens, aujourd'hui, c'est très naïf, mais ils veulent que le coupable soit condamné. Voilà, c'est tout. Et de la même façon, Total ne peut pas supporter l'idée d'être désigné comme le responsable d'une catastrophe de cette ampleur. Donc, voilà. Moi, je crois que les questions symboliques sont importantes. Hein. Et pour ce qui est de mon association, c'est quelque chose qui nous lie beaucoup plus que toutes les bagarres qu'on a menées pour les dédommagements. Hein. Et les gens, ils veulent que Total soit condamné parce que c'est le coupable. Voilà. Et je crois que ça, c'est très important.
En fait, si tu veux, on peut reprendre, nous, à la fin du premier procès en appel, donc lorsqu'on a eu finalement une condamnation de Grande Paroisse et de son directeur, on a sorti un tract à ce moment-là, un communiqué, dans lequel on disait que cette condamnation, c'est une victoire, je te le relis là, contre l'arrogance et la suffisance d'un industriel certain de son impunité, une victoire comme un signal adressé à tous les industriels qui privilégient les profits à la sécurité de leurs salariés et des riverains de leurs usines, victoire aussi car c'est un avertissement à tous les directeurs des usines à risque, mais aussi un moyen pour eux de s'opposer à leur conseil d'administration réticent à investir dans la sécurité de leurs établissements. Et c'est une victoire car ce jugement, donc une prochaine condamnation de Total, ça serait une victoire car le jugement deviendrait un outil pour tous les salariés et leurs organisations syndicales qui leur permettrait de peser en interne pour améliorer la sécurité des ouvriers et leurs conditions de travail. Donc tout ça, c'est derrière ce procès-là. Donc c'est pas uniquement du symbole, c'est quelque chose de concret dans un deuxième temps, contre le risque industriel, pour batailler contre ce risque industriel, non pas simplement au niveau de Total, mais de toute l'industrie chimico-nucléaire et de l'armement, etc.
Et c'est bien pour ça que Total se bat autant pour ne pas être condamné. Parce que je pense qu'il y a derrière aussi, ça fait jurisprudence, enfin ça fait un précédent, quoi. On condamne un industriel pour avoir mis en danger, etc. Voilà, et qu'est-ce que ça peut générer comme mouvement? Parce que nous, bon, plus jamais ça, on agit et on est dans une coordination de riverains, des sites industriels. Il y en a partout des sites industriels à risque aujourd'hui. Hein. Et il y a des tas de gens qui attendent aussi le résultat de ça pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça fait quand il y a un accident. Et est-ce que pour l'industriel, il y a effectivement un danger d'être condamné à quelque chose? C'est quand même symbolique, mais pas que symbolique. Hein. Je pense qu'au niveau juridique et au niveau des luttes qui se mènent un peu partout sur l'industrie à risque, c'est extrêmement important ce qui va se décider là.
Oui. Moi, je vais intervenir, mais je vais être complètement en contre-courant de ce que vous dites. Je m'excuse. Hein. D'abord, je suis sinistré. Alors, effectivement, j'ai pas une personne qui est morte parmi mes proches. Donc peut-être je suis moins touché par... disons ce que reconnaîtrait au niveau moral, ce que reconnaîtrait la justice en disant « ouais, on reconnaît que votre personne a été tuée par une explosion, etc. » Enfin bon, ce que tu as dit tout à l'heure, quoi. Au niveau symbolique, je pense que quand j'ai l'impression ici, dans ce truc, en fait, on dit c'est la justice qui va juger, mais j'ai l'impression que vous avez déjà jugé Total, vous. Et donc tu dis, toi par exemple, à ma droite, les gens attendent la condamnation de Total. Mais c'est bien la justice qui est censée dire c'est Total ou que c'est pas Total qui est responsable. Donc il y a un truc que je comprends pas trop sur cette contradiction.
Elle l'a déjà dit.
Apparemment, elle a, en tout cas, elle n'est pas dit jusqu'à présent, et ça a été dit, ça a été remis en cause. En tout cas, elle va dire c'est Total, c'est pas Total. Donc les gens, ils attendent une condamnation d'un coupable, mais on ne sait pas si c'est Total aujourd'hui, officiellement. Ensuite, moi je pense que l'État est beaucoup plus responsable que Total dans cette histoire-là. Or, tout à l'heure, tu disais, mais en fait, Total, c'est 80% de l'État. Mais en fait, l'OTAN n'est pas mis en cause, sauf par votre procès. Mais en gros, il passe en administratif, il passe pas au pénal. Je veux dire, médiatiquement, c'est absolument pas médiatisé. C'est-à-dire, ce n'est que Total. On entend même dans le jingle qu'on a fait ici, c'est manif. Total, assassin, total assassin, etc. Il n'y a jamais une réelle mise en compte de l'État. AZF a été construit comme une usine d'armement par le gouvernement français en 1924. C'est une usine qui a continué à fabriquer des... En conscience des armes, produire les trucs qu'ils envoyaient à la SNPE. La SNPE est une structure de l'État. Je veux dire, l'État utilise clairement cette usine pour fabriquer des armes. Et je veux dire, elle est pas, ils ne sont pas mis en cause sur le fond là-dessus. Il n'y a aucun, à aucun moment donné, quand vous les attaquez administratifs, vous ne les attaquez pas sur le fait que ce sont des gens qui font des guerres, qui fabriquent des armes et tout ça. Pour moi, ce procès... Oui, non, mais bon, je m'exprime là-dessus. Ce procès, pour moi, il n'a aucune valeur d'être. C'est-à-dire qu'en ayant explosé, je ne vois pas réellement les coupables mis en cause. Et ensuite, donc, les coupables, l'État. C'est-à-dire l'État qui, après, a vendu plus ou moins l'usine à Grande Paroisse et après à Total Final, etc. Ensuite, il y a un autre truc, c'est qui est-ce qui va condamner le Total ou l'État. Alors là, c'est la grande référence à la justice de notre pays. Moi, je ne crois pas à la justice de ce pays. Je n'y crois pas pour diverses raisons, parce que je sais qu'elle condamne les pauvres, qu'elle n'a jamais fait office d'être réellement un point où la justice, une justice avec un grand J s'exprimait. Il n'y a que des pauvres en prison, les riches n'y vont jamais. Je veux dire, au quotidien, vous allez voir ce que fait cette même justice, les mêmes juges qu'on retrouve devant au tribunal face à Total ou pour le procès AZF. Sont les mêmes qui balancent 25 ans de prison sans se poser de problème à tout un tas de gens qui sont coupables ou non coupables, enfin, bref, ils s'en foutent. Donc on se retrouve en fait à aller à ce procès et à cautionner complètement un système, à la fois l'industrie, parce qu'il faudrait une industrie qui soit propre, qui soit sécurisée par l'État, etc. Ça n'existe pas, il n'y a pas de risque zéro, ils le disent eux-mêmes. Et on demande maintenant aux juges qui sont pour moi des assassins en puissance, parce qu'effectivement, ils tuent des gens à petit feu en permanence dans les prisons, on leur demande de venir donner une pseudo-vérité. Et après, sur votre histoire de dire les thèses plus ou moins fabuleuses, etc., le complot, etc., les procès, principalement, se sont attardés à faire ça, à dire il n'y a qu'une seule thèse qui tient, c'est la thèse officielle qui a été décrétée par le préfet le deuxième jour, et je voudrais qu'on m'explique. Oui, non, mais je sais que j'allais te faire agir. Donnez-moi là, une raison aujourd'hui pourquoi il y a eu une coupure électrique 8 secondes avant l'explosion.
Il n'y en a pas eu.
Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu EDF. Et moi j'ai vu le papier d'EDF, comment ils le disent.
Eh bien, c'est pas vrai.
Ah, c'est pas vrai, c'était faux.
Non, mais c'est vrai, mais c'est un combat politique, c'est des luttes politiques qu'il faut mener. Tu ne peux pas dissocier des luttes au niveau juridique de ces luttes politiques. C'est pas parce que tu as ces luttes politiques que tu mènes d'un côté que tu dois abandonner tout combat juridique. C'est deux façons d'intervenir dans le même sens. Sans lutte juridique, sans possibilité donnée à l'ensemble des citoyens de se battre juridiquement, on voit bien que d'un autre côté, les luttes politiques, elles mènent à rien non plus, hein, pour l'instant. Donc je crois que c'est deux luttes qu'il faut mener, des luttes politiques d'un côté et les luttes juridiques que tu dois mener de l'autre côté. C'est pas indissociable et c'est pas à opposer.
Moi, je partage la plupart des choses que tu as dites, hein, sur le rôle de l'État, etc., le rôle de la justice, mais force m'a été de constater que dans le second procès, les juges, ils n'ont pas craqué.
Ils ont condamné.
Ils n'ont pas craqué. Et c'était dur. Et c'était extrêmement difficile. Et il y a des experts qui ont fait leur boulot. Ils n'étaient pas habitués à être insultés de la sorte, mais il y a des experts qui ont fait 10 fois plus que leur mission et qui ont découvert des choses extrêmement intéressantes. Hein, donc, l'appareil d'État, effectivement, c'est des gens qui sont faits pour condamner les pauvres, exonérer les riches, je suis d'accord avec toi, mais il peut se trouver qu'il y ait des bonhommes... Hein, qui sont touchés, hein, sont, enfin, n'acceptent pas de voir que les choses se passent comme ça et qui se bagarrent, hein, pour que la justice passe. Ça existe.
Patricia, tu peux dire
un tout petit truc. Autant je suis d'accord bien sûr avec ce que tu dis au niveau politique, autant on a écouté depuis ce matin des gens qui, 15 ans après, vivent encore avec AZF au quotidien. Tous ces gens qui ont des acouphènes, qui les empêchent de dormir, qui ont vécu 10 ans avec de la vaisselle en plastique parce que le bruit du verre c'était insupportable et tout ça. Ces gens-là, ils ont besoin quelque part d'une reconnaissance, que moi j'appelle réparation morale, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est ça qui se joue... à un niveau symbolique, quoi qu'on pense de la question de Total, de Grande Paroisse ou d'AZF, dans la démarche d'aller dire « dites-nous que quelqu'un a fait ce truc-là ». Parce que s'il y a un coupable, c'est qu'il y a une victime. Et il y a cette forme-là de résilience. Si quelqu'un est reconnu comme coupable, moi, je vais pouvoir me construire comme victime et peut-être je vais arrêter de revivre en boucle ce truc-là 15 ans après, quoi. Voilà. C'est ça qui se joue. Après, je pense que moi, ce qui va être terrible, parce que j'ai aucune illusion sur ce qui va se passer dans ce procès, je pense pas du tout que l'issue, elle puisse être positive. Ce qui va être terrible, c'est qu'est-ce qui va arriver pour ces gens-là une fois que la justice, encore une fois, leur aura dit personne n'y est pour rien. Et c'est comme ça, il faut l'accepter, quoi.
Il n'est pas sûr qu'il faille préjuger de la décision du tribunal. Enfin, là, en l'occurrence, pour avoir eu deux procès l'un puis l'autre, sur des dossiers semblables, parce que finalement, le contenu était le même, on a vu que les décisions pouvaient être diamétralement opposées. Ce que tu dis, c'est la question de la militance. Hein. Je veux dire, on va au combat face à des gens. Pourquoi ? Alors ça, c'était la question. Pourquoi on fait ça 15 ans après, alors qu'à la limite, il y a plus grand monde que ça intéresse ? C'est vrai que c'est sur des positions personnelles, c'est sur des engagements personnels. Et c'est vrai qu'on doit, pour ça, rentrer dans les fonctionnements de la justice, dans les fonctionnements de la police, dans les fonctionnements des tribunaux, dans un dialogue, malgré tout, avec Total, avec le juge, etc. Peut-être qu'en faisant ça, on se salit les mains. C'est un vieux problème de la politique active. Et ce problème-là, on ne le résoudra pas aujourd'hui, je pense. Mais pour nous, on y va parce qu'on pense qu'à tout petit déplacement d'un petit gravillon quelque part sur la route, ça peut un peu faire bouger les choses.
Dans votre énumération, vous oubliez... La presse.
Oui, aussi.
Parce que la presse, dans les 3 mois qui vont précéder le jugement, au moins la date, si tous les aléas que M. Grelier a énumérés, la non-possibilité des parties civiles de se déplacer, enfin le trop grand nombre et qu'il y ait un report, bon, Total, ils s'en fichent. Hein, les reports, mais n'oubliez jamais la presse. Parce que c'est elle qui a diffusé... tout le marasme dont vous êtes encore l'écho aujourd'hui, parce que vous parlez des 8 secondes. Donc on en revient à quoi ? Qu'est-ce qui a fait sauter l'usine ? On ne le sait toujours pas. Donc on est 15... Oui, voilà, il le sait, mais d'autres ne le lisent pas.
C'est la connaissance du dossier. Hein. Je veux dire qu'il y a effectivement des milliers de pages d'instructions. Il faut avoir le temps de les lire.
Il y a l'enquête aussi. Et il y a ce qui a été divulgué par la presse. Et ce qui ne l'a pas été. Et je suis témoin pour le savoir, puisque j'ai moi-même enquêté et j'étais complètement boycotté. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'avant le troisième procès, à force de petites émissions, dont celle-ci de rappel 15 ans après, j'ai pas voulu lire la dépêche d'aujourd'hui, où j'ai travaillé 11 ans, en pleine enquête, qui a été quand même le premier quotidien national à couvrir les événements, médias sur lequel se sont référés tous les autres de l'Hexagone, ils lisaient ce qui se lisait dans la dépêche. Moi, je suis là pour témoigner que la dépêche, elle a eu une ligne rédactionnelle, officielle, attentat, un coup c'était mélange chlore-nitrate, ce qui a été démenti par Mémoire et Solidarité, qui ont quand même utilisé le... Enfin, je vous invite à lire À Zéro France, un petit blog récapitulatif qui fera pas de mal. À zéro franc, voilà. Et puis voilà, et puis après, en janvier, il y a un procès. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte d'état d'urgence, terrorisme, burqa, machin, je crains que, justement, le flou artistique qui a été entretenu pendant les 12 ans, dans les 8 ans, 15 ans d'investigation, parce que là, maintenant, c'est clos. On n'est pas aux États-Unis, en France. Mmh. Aux États-Unis, on peut amener des éléments nouveaux dans les procès et puis faire influer... alors que là, non, on est dans du droit pur et dur, appel, contre-appel, cassation... Les éléments d'enquête qui pourraient donner une version un peu plus vraie, on va dire, c'est mort. Donc on va être dans le fantasme non-stop jusqu'à mai 2017. C'était juste une conclusion.
Merci d'être à tous d'être venus hein, pour parler de tout ça. Pour voilà, on va continuer de suivre évidemment, puisqu'il y a ce procès effectivement en 2017, on verra bien. Hein, les paris sont ouverts, ça fait un petit moment qu'ils sont ouverts. Hein, ils vont finir par se fermer un jour ou l'autre, mais bon, pour le moment ils sont toujours ouverts. Ça fait 15 ans que ça dure. Voilà, on a fini un petit peu ce marathon pour aujourd'hui, ce marathon du 21 septembre 2016, 15 ans jour pour jour après l'explosion de l'usine AZF. Si vous avez rejoint maintenant, vous pouvez zapper, c'est fini quoi de toute façon. Sinon, c'était super bien parce que beaucoup de gens ont joué le jeu, sont venus témoigner de ce qu'ils avaient subi, ressenti, vu, entendu et tout ce qu'ils avaient encore sur le cœur là depuis cette explosion. On a parlé de la lutte aussi avec ces gens de Plus Jamais Ça, ni ici ni ailleurs. C'est parti un petit peu dans tous les sens, mais c'était vachement sympa, on serait cru au bar, quoi, j'adorais. Et évidemment des procès, et voilà, pardon.
En tout cas, ben, merci à tous ceux qui sont venus, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, car nous avons reçu des messages de la France entière, y compris sur des bateaux en Méditerranée. C'était important, je pense, de revenir. Pourquoi on a fait tout ça? C'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que AZF, c'était il y a 15 ans, que les gamins étaient petits, qu'il y a eu plein d'arrivées sur Toulouse et que plein de gens ne sont pas forcément, n'arrivent pas à percevoir l'ampleur de ce que ça a été.
Et surtout aussi l'ampleur de toute l'histoire qu'il y avait derrière avec ce pôle chimique, etc., ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est bien de ne pas perdre, c'est une partie de la mémoire de la ville aussi, hein, qui s'est jouée, enfin qui a tourné en cacahuète il y a 15 ans, et c'est bien de ne pas l'oublier, quoi, et d'y revenir régulièrement dessus, quoi. Un petit morceau, I fought the law and the law won, j'ai combattu la loi et la loi a gagné, c'est des clashs. Je trouve que pour le moment.
Status quo aussi.
Je préfère les clashs que status quo.
J'aime bien les deux.
D'accord.